Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. Vladimir Poutine confronté à des déserteurs en Russie. Et puis sur le plan international, la Chine et l'Inde prennent de plus en plus leur distance avec le maître du Kremlin et ses défaites militaires en Ukraine. L'Info C'est Clair est intitulé « Poutine, le début de la fin ». Nos invités, Isabelle Lasserre, vous êtes correspondante diplomatique pour Le Figaro. Vous avez été correspondante en Russie. À lire dans Le Figaro aujourd'hui cet article « La mobilisation brutale inquiète les Russes ». Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste à France Inter, spécialiste des questions internationales. Et Denis Strelkov, vous êtes journaliste au sein de la rédaction en langue russe de RFI. Merci de participer à cette émission en direct. Donc face aux rumeurs possibles de fermeture des frontières, de nombreux Russes cherchent à quitter le pays par tous les moyens. La situation se tend un peu plus tous les jours. Hier, des fusillades ont éclaté dans un centre de recrutement. Sujet de Peggy Mauger.
Un coup de feu, un homme qui s'écroule. Il s'agit d'un militaire russe chargé du recrutement dans ce bureau de mobilisation. Grièvement blessé, le soldat est vite évacué. La scène s'est déroulée dans une petite ville industrielle aux confins de la Sibérie. Après avoir tiré, l'assaillant de 25 ans aurait crié « Personne n'ira se battre ». Le voici filmé menotté après son interpellation. Situation d'extrême tension en Russie depuis l'annonce de la mobilisation militaire partielle dans le pays. Sur ces images de la télévision d'État, les réservistes affluent, détendus, souriants même. On les voit faire des signes de revoir à leurs proches, départ pour le front avec la promesse de compensation financière.
Ils ont tous un statut de militaire. Ils recevront des allocations. Eux et leurs proches auront droit à l'ensemble des avantages sociaux du pays.
Les femmes, elles, se mobilisent aussi, mais contre l'envoi de réservistes. Au Daghestan, elles étaient des centaines dans la rue. Le Daghestan qui essuie les plus lourdes pertes humaines en Ukraine depuis le début de la guerre.
La Russie a envahi l'Ukraine.
Qui vous a dit ça?
Mais nous ne sommes pas aveugles.
Pendant ce temps, l'exode continue aux quatre coins du pays. Sur cette route du sud menant à la frontière géorgienne, une impressionnante file de voitures. Des hommes surtout, qui attendent là depuis plusieurs jours. La Finlande voit aussi arriver de plus en plus de ressortissants russes.
La mobilisation m'a convaincu, il fallait que je parte. En plus, j'ai de la famille en Ukraine, je ne peux pas aller me battre contre mes propres frères.
Selon la douane finlandaise, 17 000 Russes ont franchi la frontière ce week-end. C'est deux fois plus qu'avant l'ordre de mobilisation annoncé par le Kremlin.
Alors Isabelle Lasserre, cette mobilisation partielle qui se passe mal, c'est le signe de quoi ?
Elle tourne au fiasco. Alors, c'est le signe de quoi? Je serais bien embêtée pour vous répondre.
Est-ce que Vladimir Poutine l'avait anticipé, ça, que si peu de Russes veuillent aller se battre pour sa guerre et pour cette guerre de libération contre des nazis?
Alors, oui et non. Oui, parce que jusque-là, il n'a pas déclaré la mobilisation générale, puisqu'il sait qu'elle va être très très impopulaire en Russie. Mmh. Et non, parce qu'il a déclaré la mobilisation partielle. Il ne s'attendait sans doute pas à cette fuite absolument spectaculaire de plusieurs centaines de milliers de Russes. Alors, est-ce que c'est le signe d'un craquement du régime? Est-ce que c'est le signe d'un réveil de la population? C'est très compliqué, parce que les Russes qui aujourd'hui s'enfuient ou protestent ou incendient des postes de recrutement... Ne protestent pas, ils ne se sont pas soulevés contre la guerre en Ukraine au début, ils ont simplement peur, ils n'ont pas envie d'aller combattre, mais c'est pas un geste de soutien au peuple ukrainien. Et en même temps, on a l'impression, parce que c'est quand même, ça dure assez longtemps, on a l'impression qu'il y a un déclic, mais... Je crois que c'est trop tôt pour le dire. Mais
si on rajoute... Tout à fait honnête, c'est vrai qu'au début, on se demandait si ce n'était pas un phénomène médiatique et que nous, les médias occidentaux, grossissions. Et on s'aperçoit qu'il y a de multiples témoignages qui montrent qu'ils ne veulent pas la faire.
Oui, parce que, évidemment, nous, on attend tous ça. Donc, c'est un petit peu du wishful thinking. Mais c'est vrai que quand on suit pas mal de Russes, notamment dans l'Est et que, sur Twitter... on a énormément d'histoires, Et c'est absolument incroyable. Et cette mobilisation partielle, elle n'a pas l'air si partielle dans certaines régions de Russie, parce que
en fait, le Daghestan, là, par exemple,
les régions ont des quotas, à fournir, enfin, à la fin de la journée ou de la semaine, et il faut un petit peu du zèle. Donc, il y a eu des étudiants qui ont été ramassés, des gens qui ont plus que 65 ans, des gens qui sont malades, et ça a provoqué une réaction super super négative. Et le Daghestan, c'est vachement intéressant parce que c'est pas non plus censé être une république qui se rebelle spontanément contre la Russie, contrairement à la Tchétchénie voisine.
Anthony Bélanger, dans le reportage, on a entendu une femme dire « Mais c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine !» Et le policier dire « Qui vous a dit ça ?» Comme si la propagande passait moins bien. Ces images, elles sont signes de quoi ? De jeunes qui ne veulent pas faire la guerre ou de jeunes qui ne soutiennent plus cette guerre de Vladimir Poutine.
D'abord, moi, je n'ai jamais cru que les Russes n'étaient pas informés. C'est-à-dire, je n'ai jamais cru, quand on m'a dit qu'ils sont abrutis et zombifiés et abrutis de propagande, c'est vrai. Mais d'abord, ils savent faire. Et ensuite, ils savent ensuite lire les cartes et regarder ce qui se passe. Ce ne sont pas des gens stupides, ce sont des gens éduqués. Donc, enfin, une partie de la population sait parfaitement ce qui se passe. Qu'elle le soutienne ou qu'elle ne le soutienne pas. Mais jusqu'à présent, il y avait une espèce de deal entre Poutine et la population qui était cette guerre, c'est la mienne, c'est une opération spéciale, je n'engage que des forces armées, soit volontaires, soit les forces armées, et vous n'en entendrez pas parler. Là, cette déclaration de mobilisation partielle, les Russes ont entendu mobilisation, et d'ailleurs, ils ont eu raison, parce qu'elle n'est partielle que parce qu'elle ne touche ni Saint-Pétersbourg, ni Moscou, ni les très grandes villes. Ah. Elle est générale dans l'ensemble de la population. Un récit comme Novaya Gazeta a fait travailler des économistes et des statisticiens et s'est rendu compte qu'en fait, elle concernerait dans les 6 mois 25% des jeunes Russes entre 20 et 30 ans. 25%.
Donc dans une famille,
et là, 1 million plutôt que 300 000.
Et 1 million de façon plus. 300 000. Donc, les Russes ne croient pas dans les chiffres donnés par l'État russe. C'est un principe de base. 2, ils ne croient pas ce qu'on leur raconte à la télévision et ailleurs, surtout quand il s'agit de guerre. 3, le deal est rompu. Et certains ont pu écrire dans la presse, notamment américaine, que Poutine avait déclaré la guerre le 24 février à l'Ukraine et que là, il vient de déclarer la guerre à son propre peuple. Et c'est probablement... Moi, je fais partie, comme vous, de ceux qui regardaient avec beaucoup de méfiance les images, les effets loupes, des images médiatiques. Mais quand au quotidien, on commence à ajouter les chiffres, c'est-à-dire les chiffres de cheveux, par exemple, qui passent des frontières où il n'y a pas de caméra occidentale. Le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, ceux qui se rendent en Turquie, ça on le sait plus. Les fameuses files d'attente en Géorgie, même si ça représente quelques milliers de personnes, ça fait beaucoup. Et qu'on ajoute le nombre de Russes qui sont déjà dans ces pays-là. En Géorgie, il y en a 40 000 comptabilisés. En Serbie, en ce moment, ils arrivent. Et en quelques jours, il y en a plus d'un millier qui sont arrivés, qui ont demandé à rester. 3 000 qui ont demandé un permis de résidence. Donc, en conclusion, je ne pense pas que ça puisse signifier que la mobilisation générale est ratée, ou la mobilisation soit ratée. On ne peut pas encore le dire pour l'instant, mais on peut dire qu'il y a un choc absolument gigantesque dans la population russe et qu'on s'en rend compte par plein de signaux faibles, dont la présence aux frontières de milliers de jeunes gens qui refusent de faire la guerre.
De faire la guerre à ses frères.
À ses frères, oui.
Parce qu'on a entendu le reportage de ce Russe en disant « ce sont nos frères,
on
nous l'a dit ».
Parce qu'en fait, on l'oublie toujours. Mais d'abord, s'il y a une chose que la propagande dit depuis 20 ans, c'est « Ukraine, 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 peuple frère, peuple frère, peuple frère ». Merci, ça s'est rentré dans la tête des jeunes Russes. Et deuxièmement, il y a 5 millions de Russes qui ont des proches de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire des frères, des sœurs, des maris, des enfants de la belle famille, ça devient compliqué de leur dire d'aller se battre contre l'Ukraine.
Denis Strelkov, le 24 février, Vladimir Poutine a dit que c'est une guerre de libération. On pensait que les Russes avaient acheté ce narratif. Est-ce que le regard des Russes sur cette guerre est en train de changer à la faveur de cette mobilisation partielle?
Moi, je fais partie un peu de ceux qui pensent que les Russes sont quand même assez bien informés. Puis ça dépend bien évidemment des parties du pays, ça dépend aussi des générations, mais quand même les jeunes Russes avec qui je parlais par Skype, avec qui je parlais par les réseaux sociaux, ils étaient bien au courant de cette guerre, ils étaient bien au courant que c'était pas du tout la guerre libératrice. Par contre, il y a un contrat social qui est important. Contrat social que si vous ne voulez pas dans la politique, on vous laisse tranquille. Donc c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas contre la guerre, si vous ne dites pas la guerre, bon, on peut faire votre business comme d'habitude. Et on a aussi eu l'expression à Moscou que vous pouvez vous asseoir dans un restaurant, à côté il y a une arrestation et tout va bien. Donc pour vous c'est un quotidien normal.
En Russie, on a l'habitude de ne pas trop se mêler des affaires de l'État parce qu'il n'y a que des coups à prendre. Donc on croit plus ou moins aux récits que font les autorités, mais on ne s'en mêle pas. Sauf que là, ce qui change, c'est que maintenant, ça concerne directement les Russes, cette guerre.
Exactement, maintenant, donc si jamais on ne se mêle pas dans la politique...
La politique se mêle de vous.
C'est la politique qui frappe à votre porte. Voilà. Et ça, c'est quand même important, c'est un grand changement. J'ai passé aussi pas mal de temps récemment à la frontière entre la Russie et le Finlande pour faire des reportages, et ce qu'on a observé, qu'on était absolument choqué, de voir que ce ne sont pas uniquement des jeunes qui soutiennent la position. Il y a aussi des entrepreneurs, des gens qui sont assez riches, qui pensaient que pour eux, la mobilisation ne voulait pas dire grand-chose. C'est-à-dire que eux, toujours, ils pourraient mettre un petit billet à côté pour ne pas aller se battre dans la guerre, donc pour être tranquille partout. Sauf que maintenant, eux, avec ces milliers et milliers d'euros qu'ils ont sur leur compte bancaire, eux, ils sont assis en danger. Et maintenant, les gens qui partent, ce n'est pas uniquement des jeunes qui ne veulent pas se battre, c'est aussi des gens qui représentent un peu l'élite intellectuelle et l'élite financière de la Russie qui sont en train de partir. Moi, j'ai rencontré un personnage qui a un réseau de cafés à Saint-Pétersbourg. Donc, c'est quelqu'un qui était ami avec tous les hommes dans le pouvoir à Saint-Pétersbourg. Par contre, maintenant, lui, il se sent en danger aussi. Et ça, c'est un grand signe qui montre que Poutine a bien évidemment prévu que les gens de l'opposition vont quitter le pays. Et ça, c'était un peu son plan aussi, de laisser partir tout le monde qui n'est pas d'accord. Par contre, cet exode des gens qui ont de l'argent, qui ont aussi qui sont fortes de point de vue intellectuel, qui ne veulent plus servir à la Russie de point de vue militaire et économique, ça le choque et ça, c'est important.
Des forces vives qui quittent la Russie parce qu'ils ne s'y voient plus d'avenir, ben justement, je vous propose d'aller en Géorgie. Elles vont souvent en Géorgie, ces forces vives, parce qu'il n'y a pas besoin de visa pour les Russes quand on va en Géorgie. Maryse Burgot est allée à leur rencontre, regardez.
Plus de 20 km de file d'attente aujourd'hui pour passer en Géorgie. Dans ces milliers de voitures, des Russes fuyant la mobilisation des réservistes décrétée par Vladimir Poutine. Les voici enfin côté géorgien, après 2 à 3 jours d'embouteillage. Nous les retrouvons à Tbilissi, la capitale du pays. Nouvelle file d'attente pour se procurer une carte SIM et téléphoner localement. Valise sur le trottoir, ces hommes expliquent que jusqu'à présent, les Russes laissent passer presque tout le monde, moyennant parfois des pots de vin, jusqu'à 180 euros. Souvent, ces hommes disent qu'ils n'ont pas encore été convoqués par les autorités militaires, mais ils partent par précaution.
C'est aller trop loin. Ce que nous propose le gouvernement ne me convient pas. On a 2 solutions. Soit on est mobilisé, on va au front, soit on va en prison si on refuse. Bien sûr, tout le monde ne sera pas mobilisé, mais tu ne sais pas si ça va tomber sur toi ou sur quelqu'un d'autre.
J'ai eu peur. Enfin, j'ai pas eu peur d'aller à la guerre. J'ai peur que la situation en Russie se dégrade, qu'il n'y ait plus du tout d'emploi, par exemple.
Ces 2 autres Russes sont eux aussi arrivés récemment. L'un était en voyage professionnel au moment de l'annonce de la mobilisation, l'autre en vacances en Géorgie. Tous les deux viennent de décider de s'installer à Tbilissi. Ils racontent ce que vivent leurs amis restés en Russie.
Tous se demandent comment se cacher, comment éviter la mobilisation, comment contourner les bureaux de recrutement militaire, comment sortir le moins possible. Ne pas prendre le métro, par exemple, parce qu'il y a des caméras de surveillance.
Ces nouveaux arrivants russes ne sont pas forcément les bienvenus en Géorgie. Sur ce graffiti récent, ils sont invités, avec des mots assez crus, à rentrer chez eux.
C'est terrible, hein, Isabelle Lasserre. On voit bien comment les Russes... D'ailleurs, c'est Emmanuel Macron qui le disait, ton peuple va le payer très cher. Et ces Russes ne se voient plus d'avenir, les élites. Et ils ne sont pas en colère aussi. C'est quelque chose qui est frappant, tout ça, irrationnel. Bon, on s'en va.
Mais là, en fait, je redis le mot, pour l'instant, de fiasco de cette mobilisation. Parce que quand vous ajoutez ça, cette fuite... spectaculaire des jeunes Russes et même des Russes plus âgés. Vous ajoutez à ceux qui sont vraiment effectivement mobilisés, qui vont au front et qui n'ont pas eu la chance de pouvoir partir, soit parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent, soit parce qu'ils se sont fait attraper au coin de la rue avant de pouvoir réagir. Et vous voyez dans quel état ils sont quand ils arrivent au front. Vous comprenez l'effondrement de l'armée et vous comprenez pourquoi la Russie, en tout cas en ce moment, est en train de perdre du terrain militaire. C'est-à-dire que les soldats, on voit, sont équipés de fusils d'assaut complètement cassés. Certains ne marchent plus. Ils sont vraiment d'un autre âge. Ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de nourriture. Ils sont arrivés, ils sont assis comme ça dans la forêt. Et il y a aussi énormément de gens qui sont envoyés, qui sont saouls et qui boivent de la vodka pour essayer de d'oublier ce qui leur arrive. Les séances d'entraînement sont absolument incroyables. On voit des soldats bourrés, enfin des jeunes conscrits bourrés en train de marcher comme ça. Enfin, vous voyez, c'est depuis le début, il n'y a aucun enthousiasme en Russie pour faire cette guerre, enfin à part au Kremlin, et cette guerre ne prend pas dans la population oui. russe. Et là, on arrive quand même. Pour moi, j'ai l'impression au bout d'un truc. Enfin, je ne vois pas comment le régime ne pourra pas vaciller dans les semaines et dans les mois qui viennent. Quand on assiste à ce spectacle, la Russie est en train de se vider. Vladimir Poutine a l'intention, il le dira sans doute ce week-end. On va voir s'il va le faire ou pas. Mais de fermer les frontières, c'est-à-dire
comme du temps de l'URSS,
de réinstaurer un rideau de fer. Et là, il va y avoir encore une ruée. Alors, je veux dire, il est en train de refaire tomber un rideau de fer, de transformer son pays en une espèce de Corée du Nord. Enfin, ça ne va plus du tout.
Alors, ce qui est très intéressant, cette histoire de fermeture des frontières, c'est que, autant il a hésité pendant des mois à faire une conscription et à faire une mobilisation générale ou partielle. Et là, il hésite encore à fermer les frontières. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a probablement intérêt à laisser partir le plus de jeunes Russes possibles qui peuvent partir pour essayer de prendre au piège ceux qui ne peuvent pas partir de toute
façon. Et il en restera des millions.
Parce que s'il ferme les frontières, il en restera des millions quand même. Ou en tout cas suffisamment. Parce que s'il ferme les frontières maintenant, c'est maintenir au sein de la Russie des gens extrêmement en colère, ces gens et leurs familles. Donc, c'est tout un jeu, en fait, terrible, parce qu'on joue avec la population. Par ailleurs, on sait déjà...
On perd les forces vives aussi.
Perd les forces vives, franchement, d'un point de vue de Vladimir Poutine, qui a des problèmes maintenant et pas des problèmes dans un an ou dans deux ans, c'est le dernier de ses soucis. C'est le cas de ses soucis. Toutes les dictatures ont toujours fait ça, depuis l'exemple de Marielle à Cuba. C'est-à-dire, vous voulez partir, vous êtes un opposant, vous êtes un intellectuel, vous êtes jeune.
Allez-y,
partez. Regardez, les Vénézuéliens ont perdu comme ça 5 millions et ils ont pu claquemurer leur pays et assurer le régime. Donc ça, c'est pas un problème pour Vladimir Poutine. Ce qui, par contre, risque de l'être bientôt, c'est effectivement le fait que les pays voisins commencent à subir la charge. Hier, il y avait des reportages, notamment dans Novaya Gazeta, qui le fait depuis l'étranger, mais aussi dans Moscow Times, deux journaux, on va dire deux voix très renseignées sur la Russie, qui expliquaient que, par exemple, dans les villes kazakhs, à la frontière, parce que en fait chacun sa frontière, hein. C'est-à-dire les plus pauvres vont à pied, prennent le train et donc vont par le Kazakhstan parce que c'est plus facile, il y a 4000 km de frontière et le Kazakhstan n'arrive plus à absorber. Il y a des villes entières qui sont où les jeunes Russes qui viennent d'arriver dorment dans la rue alors qu'il fait très froid encore. Déjà, il a commencé à faire froid. Donc vous voyez, c'est un jeu très délicat. On peut appeler ça un jeu.
Denis Strelkov, c'est vrai qu'on a vu ces images de ces Russes qui fuient leur régime et qui sont accueillis par, je vais pas le répéter, mais Russie, va-t'en, allez-vous-en, les Russes. Vous êtes franco-russe, hein, Denis Strelkov. Il y a une russophobie qui se développe, dont les Russes souffrent énormément parce qu'au fond, Vladimir Poutine est en train de traîner dans la boue la réputation de ce peuple.
Moi, je pense qu'il y a deux choses. Donc, par rapport à cette russophobie, comme vous l'avez appelée en Géorgie, en Arménie surtout, je pense que c'est un phénomène qui est tout à fait local et qui est compréhensible en quelque sorte. Parce que moi, j'étais à Tbilissi, à Erivan cet été, bien avant cet exode. Vous voyez, quand à Erivan, il y a eu presque 1 million d'habitants et vous voyez 100 000 hommes de plus des programmeurs de Moscou arriver avec des salaires élevés. Et vous voyez, on doublait, voire triplé. Moi, j'ai mon ami très proche qui habite à Erivan, qui est de Moscou, et lui, il a vu que maintenant, il paye pour ses 30 mètres carrés dans le centre d'Erivan, il va bientôt payer 2 000 €. 2 000 €, c'est une somme qui est absolument impressionnante pour la population locale. Donc, oui, effectivement, la Géorgie, l'Arménie ne veut pas voir cette vague de réfugiés parce que pour eux, ça devient invivable, en quelque sorte. Puis, par rapport à d'autres pays, notamment en l'Estonie et la Lituanie, on peut aussi comprendre qu'eux, ils ont une histoire assez compliquée avec la Russie et en Géorgie, par exemple, une grande partie du pays est toujours occupée par la Russie. Donc
d'ailleurs, la question se pose de faut-il accueillir ces dissidents, ces gens qui fuient le régime, Isabelle Lasserre. On a envie de les accueillir, mais il y a une telle russophobie en Lettonie, en Estonie et dans les pays baltes que c'est non, vous êtes russe, vous êtes forcément mauvais.
La Géorgie, c'est intéressant. Moi, j'y étais il y a 10 jours. C'est partagé, hein, parce que le pouvoir est plutôt pro-russe et la population plutôt anti-Poutine. Donc, il y a aussi un jeu politique. C'est pas que la charge économique, c'est aussi ceux qui sont en fait l'opposition géorgienne. Qui est donc opposé à Vladimir Poutine, a peur, en fait, d'avoir un certain nombre de Russes qui ne sont pas vraiment pro-ukrainiens et qui ne sont pas vraiment pro-géorgiens. Et ils ont peur de voir leur voix étouffée dans une masse russe nouvelle qui serait le relais de, quand même, indirect de Moscou et des intérêts du Kremlin. Sur le reste, alors, il y a des pays qui ont été hyper durs, effectivement, vous l'avez dit, en Europe du Nord et en Europe de l'Est, et qui ont fermé leurs frontières. Ça, c'est terrible pour les Russes, qui sont de vrais opposants à Vladimir Poutine et qui veulent à la fois se sauver, mais qui aussi pourront jouer un rôle à l'avenir quand le régime de Vladimir Poutine sera tombé.
Donc, vous êtes dans l'après-Poutine, hein. Quand le régime sera tombé. Ouais, non, mais c'est intéressant. Hein. Oui, c'est la première fois.
C'est la première fois que vous m'entendez dire
voilà.
Ça.
Et je trouve qu'il y a un tournant.
C'est,
hein.
C'est tout à fait vrai.
J'ai l'impression que le régime se craquelle parce que il y a cette opposition, il y a ces fissures à l'intérieur, mais il y a aussi tout le contexte international. Je crois qu'on va en parler après.
Mais tous les commentateurs.
Je ne sais pas si on en parle après.
Si, on va en parler. Écoutez, allons-y carrément. Est-ce qu'il y a cette idée? Jusqu'à présent, on se souvient d'Emmanuel Macron qui disait il ne faut pas humilier la Russie parce qu'il avait en tête du jour où il faudra bien négocier une paix avec Vladimir Poutine. On a l'impression qu'on est sorti de ce schéma que plus personne n'imagine maintenant de se retrouver à une table de négociation avec Vladimir Poutine, que ce sera... s'il perd, il partira.
Oui, alors ça, quand même, on est sorti. Oui, la France et l'Allemagne commencent doucement à sortir de ce schéma, mais toute l'Est de l'Europe et le Nord de l'Europe en étaient sortis de ce schéma il y a très très longtemps. Mais effectivement, aujourd'hui, la question de savoir s'il peut, à la fin, on disait, ok, des négociations, tout se termine par les négociations, une guerre se termine forcément par des négociations, ce qui, entre parenthèses, est complètement faux, c'est pas à chaque fois, mais est-ce qu'on peut imaginer, aujourd'hui, les Ukrainiens négocier avec Vladimir Poutine? Moi, j'en sais rien. Peut-être que oui, mais la question de se dire peut-être que ça ne va pas être possible se pose quand même aujourd'hui. Elle se pose. Et effectivement, dans le contexte international, avec des pays qui commencent à lâcher la Russie ou à dire attention, il va un petit peu trop loin, on a l'impression que le régime... est très fragile aujourd'hui.
Des pays qui lâchent la Russie, ben justement. Vladimir Poutine peut-il réussir cette guerre? En tous les cas, son pari initial qui était de faire tomber le gouvernement de Kiev en quelques jours, il s'est lamentablement trompé. Voyez ce sujet sur l'après Poutine est-il en train de commencer? C'est un sujet de Anne-Christine Roth.
On le dit, de plus en plus isolé. Vladimir Poutine... contesté jusque dans son propre pays. Nouvelle manifestation en Russie aujourd'hui contre la mobilisation des réservistes. Manifestation interdite, aussitôt réprimée. Officiellement, 300 000 réservistes sont appelés sous les drapeaux, peut-être plus. Une mobilisation qui divise et déchire la société russe. Cette vidéo amateur montre des hommes forcés à monter dans un bus pour aller en Ukraine. Ils protestent en essayant d'obliger les policiers à embarquer eux aussi vers la guerre. La guerre, eux non plus, ne veulent pas y participer. À la frontière de la Géorgie, une longue file d'attente. Des hommes qui quittent la Russie afin d'éviter d'être mobilisés.
Je n'aime pas ce que font nos autorités en Ukraine. J'ai de la pitié pour mes frères ukrainiens. Je déteste ce qui se passe en Ukraine.
Autre difficulté pour Vladimir Poutine, les revers de son armée en Ukraine et l'incompétence de certains de ses généraux. Dernière en date, Dimitri Bulgakov, ce haut gradé chargé de la logistique de l'armée, a été limogé. Remplacé par ce général, un dur visé par des sanctions occidentales pour son rôle dans le siège de Mariupol. Mauvaise passe également sur le plan extérieur. La semaine dernière, Vladimir Poutine est revenu bredouille du sommet des non-alignés sans le soutien escompté. À l'ONU, la Chine a semblé prendre un peu de distance avec son allié russe, appelant à une résolution pacifique de la crise ukrainienne.
Alors, Anthony Bélanger, la Chine qui a multiplié les déclarations et les expressions, qui a appelé Poutine à respecter l'intégrité territoriale de tous les pays, qui a appelé la Russie et l'Ukraine à ne pas laisser le conflit déborder. Ce matin, votre journal Le Figaro titre « Pékin embarrassé par la fuite en avant de Vladimir Poutine ».
Mais moi qui ai l'habitude de commenter et qui essaye d'être raisonnable, c'est-à-dire de ne pas parler de la chute du régime de Poutine ou même de parler d'une distanciation qui pourrait avoir entre la Chine, entre la Russie et ses alliés. Qui sont objectivement l'Inde et la Chine. Pour les plus grands d'entre eux. L'Inde, bon, je suis ahuri. C'est-à-dire ce qui s'est passé à Samarcande avec les remontrances de Narendra Modi en direct devant la télévision, Premier ministre indien, disant à Vladimir Poutine, ce n'est pas le moment de faire la guerre. Et avec trois communiqués, coup sur coup de la Chine, même si, franchement, quand vous les lisez, si vous n'êtes pas un habitué, vous savez, on a l'impression qu'il ne s'y passe rien. Et il s'y passe, en fait, un énorme agacement chinois. Alors, il y a plusieurs explications. La Chine, de toute façon, déteste cette guerre. Elle vient de faire la démonstration. Cette guerre vient de faire la démonstration que les États-Unis étaient indispensables à l'Occident et indispensables à la sécurité du monde. Exactement ce dont ne veut pas entendre parler la Chine. C'est pas du tout dans ses plans. Donc, mais ça ne veut pas dire pour autant abandonner son allié stratégique, a priori celui qu'elle s'est choisi, qui est la Russie de Poutine. Mais là, ça commence à lui coûter très cher. Elle a une crise économique auquel elle fait face, évidemment dantesque, parce que vous achetez la Covid, le problème des immobiliers, et puis bon, et vous arrivez à une crise dantesque. Et elle paye les matières premières et le gaz et le pétrole au même prix que nous, qu'elle importe. Donc l'Inde, c'est un peu pareil, même s'ils ont un rabais sur le pétrole et le gaz russe, ça commence à tirailler partout. Tirailler dans le sens où ces pays ne veulent pas se voir. Donc il y a un moment occidental, presque malgré l'Occident, qui tout à coup voit tomber les unes après les autres ces alliés qui semblaient si proches de Vladimir Poutine.
Denis Strelkov, est-ce que ce qui est embarrassant aussi, ce sont les revers militaires qu'essuie cette grande armée russe dans ce petit pays qui s'appelle l'Ukraine et qui est à sa frontière. Par rapport à la Grande Russie.
Bah, surtout que oui, donc c'est une humiliation, une sorte d'humiliation pour la Russie, parce que ce qui était un peu l'idée de Vladimir Poutine, c'est de faire une petite guerre victorieuse. Et maintenant, on voit qu'on est loin de
c'est
ça.
C'est ce qu'il avait vendu à la Chine et à l'Inde.
La Chine, l'Inde, donc tous ses partenaires, tous les pays voisins. Car, vous voyez,
quand
donc,
il était allé à Pékin au moment des JO, il avait dit en 3 jours... je fais tomber le gouvernement de Kiev.
C'était à peu près ça, mais surtout que la Chine, si vous voulez, n'était pas si contre que ça de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, parce que vous voyez, voir la Russie affaiblie, voir aussi l'Occident dans l'idée, dans l'imaginaire de chinoise affaibli également, donc à cause de cette guerre, tout ça, c'est allé de plus ou moins à la Chine. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que la guerre a provoqué une crise, comme vous l'avez rappelé, grave politique, mais surtout que la Chine ne voit pas trop comment est-ce que ça peut terminer. C'est aussi un point. Vous voyez, maintenant, la Chine essaie d'en profiter en important les matières premières une grande remise de la part de la Russie. Mais si jamais la Russie va essayer de couper le robinet aussi pour un peu forcer la Chine à soutenir Moscou, ça, c'est aussi une option qui ne plaît pas à Pékin. Et tout ça, ça gêne énormément maintenant tous les partenaires russes. Et cette gêne-là, elle est pas sans conséquence, malheureusement.
Isabelle Lasserre, on parlait tout à l'heure de l'après-Poutine. Ça fragilise aussi Vladimir Poutine aux yeux de son entourage, de voir que le Premier ministre indien, le président chinois sont en train de lâcher. D'où, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut qu'il surveille Poutine ? D'où vient la menace ? Du peuple ou de son entourage ?
Petite parenthèse, il faut faire attention quand même, j'aurais dû le préciser tout à l'heure, c'est qu'on avait dit la même chose de Bachar el-Assad et il est toujours là.
Il faut manier
ses prédictions avec beaucoup de... Moi, je ne crois pas du tout à l'achat de la Chine, par exemple. Je pense que la Chine a besoin effectivement de stabilité. Elle a besoin aussi de l'énergie russe. La Russie, quand elle brandit la menace nucléaire et qu'elle va beaucoup trop loin, est un danger à la stabilité internationale. Donc, en fait, la Russie produit du désordre international. Quand la Chine veut changer l'ordre international, mais sans le chaos et sans l'anarchie, donc elle est embarrassée, effectivement. Elle essaye de canaliser Vladimir Poutine, mais pour moi, ce n'est pas du tout un lâchage. C'est-à-dire qu'il reste de toute façon entre la Russie et la Chine un objectif très important, qui est de lutter contre les États-Unis et qui est de lutter contre les démocraties et de pousser sur la scène internationale un contre-modèle autocrate,
sauf que Poutine s'y prend mal,
illibéral, etc. Poutine s'y prend mal, mais sur le fond, il y a quand même encore beaucoup de choses qui les réunissent. Par contre, l'Inde, effectivement, il y a eu un signal. Et alors, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que, en fait, c'est en Asie centrale.
Oui.
En fait. Que les pays commencent à vraiment vouloir quitter vraiment s'éloigner de l'influence russe.
Le Kazakhstan, l'Arménie, tout disent, ça.
Ben oui, mais il y a des minorités russes absolument partout et dans l'idéologie de certains au Kremlin. Enfin, dès qu'il
y a un russe,
ben,
c'est russe.
C'est comme, voilà. Donc ils commencent à avoir peur. Et donc on voit quand même une espèce d'agacement, d'énervement, de peur, même la Biélorussie, malgré tous les affichages de Loukachenko avec Vladimir Poutine. Enfin, le problème n'est pas réglé, la population n'est pas pour Loukachenko. Il a toujours essayé de il marche pas dans la mobilisation. Donc il y a en fait ce qui se passe, c'est que tout ce que voulait Vladimir Poutine, il se passe,
a eu
un effet contre-productif. Il se passe exactement le contraire. Il voulait tuer l'OTAN, il l'a renforcé avec deux pays en plus. Il voulait tuer l'Union européenne. Bon, elle est très divisée, mais elle n'est pas encore explosée. Il voulait réunir tout cet ancien empire autour de lui et autour du Kremlin. Et il voit les pays essayer de s'éloigner de plus en plus.
Anthony Bélanger, on a un Vladimir Poutine fragilisé par ses revers militaires. Mmh. Au fond, lui-même, il sait qu'il ne peut pas perdre cette guerre. Donc, est-ce que maintenant, il ne va pas lancer toutes ces dernières cartouches dans cette bataille? Et de ce point de vue, même s'ils sont peu motivés, est-ce que les 300 000 hommes qu'il entend amener en Ukraine ne peuvent pas, par la loi des grands nombres, renverser la situation?
Alors, ce qu'on sait, on va partir de ce qu'on sait. On sait que c'est Vladimir Poutine qui s'est, dans ce dernier mois, entièrement récupéré à sa main la stratégie militaire en Ukraine.
Ça, on le sait.
C'est lui qui décide de absolument tout, comme Milosevic avant lui dans les derniers moments de la guerre en Yougoslavie. Certains diront comme Hitler aussi dans le bunker, mais la comparaison est un peu délicate. On va dire comme Milosevic dans les années 90. Ça s'est très mal terminé pour Milosevic. On sait aussi qu'en fait, il a une idée en tête. Depuis le début, il vend le fait qu'il s'agit d'une redite de la grande guerre patriotique. Or, il a, à mon avis, à propos de cette partie de l'Ukraine, l'idée que c'est un second Stalingrad. Et qu'ont fait les Russes à Stalingrad? Ils ont perdu 500 000 hommes en envoyant par vagues, en submergeant les Allemands de vagues humaines. C'est pour ça que depuis le début, moi je pense que contrairement à ce qu'on imagine, il n'y aura pas de formation des jeunes Russes qui sont recrutés là.
Ils vont être envoyés directement. Ils ont 15 jours de formation.
Et à peine. Ils vont être envoyés directement au front. L'idée étant de submerger les forces ukrainiennes.
C'est comme ça que les Russes en 1941 ont gagné la bataille de Stalingrad. 1941-1942. 1943. Ouais. Je révise mes cours d'histoire.
Voilà, c'est un peu, moi aussi je crois que je suis un peu léger là-dessus. Non, je sais, pour avoir lu ce qui s'est passé. Donc ils ont en fait renversé la guerre en écœurant les Allemands, en envoyant des dizaines et des vagues entières de jeunes soldats russes, et d'ailleurs pas souvent pas russes, mais ukrainiens ou biélorusses, sur les forces allemandes pour les écœurer, épuiser les munitions et finalement gagner par écœurement. Eh bien c'est ce qu'il a en tête.
Mais là il y avait un vrai ennemi.
Oui, alors le problème, évidemment, il y a plein de différences.
Il veut réitérer ça, mais il n'y arrive pas.
Un, on n'est pas en Russie, là. On est en Ukraine.
D'accord.
Deux, de l'autre côté, vous avez des troupes qui commencent à être bien formées, bien nourries, bien motivées, et qui ne s'en laisseront pas compter. Et troisièmement, c'est la recette de la catastrophe. Enfin, si depuis le début, on dit que les Russes ont cette espèce de deal avec Vladimir Poutine, que tous les reportages qui ont été faits pendant ces 7 mois de guerre montraient un Moscou, sans McDonald's, mais qui allait quand même plutôt pas mal, là, c'est fini. Ce deal-là, encore une fois, est rompu, et c'est vraiment pas du tout envers les Occidentaux. Là, en ce moment, il faut se focaliser sur la Russie.
Alors, est-ce précisément parce qu'il a des difficultés dans le Donbass que Vladimir Poutine a organisé ces référendums qui se terminent aujourd'hui, qui vise à rattacher les régions conquises à la Russie, des référendums qui sont jugés totalement artificiels par l'Ouest, en tous les cas, ils terminent aujourd'hui. Vous voyez ce sujet qui se passe dans le Donbass, d'Aurélie Schiller.
Des urnes électorales transportées à domicile pour préserver les habitants du danger. Ou encore installées dans des halls ou des cours d'immeubles encore marqués par les stigmates de la guerre. Mariupol, dans la région séparatiste de Donetsk, ses habitants sont venus exprimer leur choix, faire partie ou non de la Russie.
Je pense que
Tout ira bien avec l'aide de Dieu. Tout le monde reviendra. Nous construirons notre ville.
Les perspectives seront bien meilleures que sous l'Ukraine, c'est mon avis.
Le chef de la République autoproclamée de Donetsk est lui aussi venu se prononcer ce matin sous les applaudissements des habitants.
Je suis ravi que ce pourquoi nous nous sommes battus depuis si longtemps se réalise enfin. Le retour chez nous, le retour à la grande Russie.
Des centaines de bureaux de vote doivent être ouverts. En Russie, pour faire voter les déplacés, dans les régions séparatistes de Donetsk et Louhansk à l'est, mais aussi dans les zones sous occupation russe au sud du pays. Les autorités russes l'assurent, tout est fait pour rendre ce scrutin légitime. Ces référendums orchestrés par le Kremlin ont été condamnés au niveau international. Les Occidentaux ont déjà annoncé qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats du scrutin.
Alors d'abord, petite précision, effectivement, la bataille de Stalingrad, elle a commencé en 42, elle s'est terminée en 43. Voilà, février de Stalingrad, février 43. Denis Strelkov, ces référendums, d'abord on voit, ils ont l'air sincères, hein, qui sont pro-russes, ils veulent que ça se termine, et est-ce que ça peut changer quelque chose quand même, ces référendums qui donneront une large victoire au camp du rattachement à la Russie?
Tout d'abord, il faut bien voir que ces référendums, donc tout d'abord, ce qui était fait bien avant, c'est que tout le monde qui était contre la Russie dans ces régions-là, ils ont été chassés en dehors de l'Ukraine, voire de la Russie. Donc oui, bien évidemment, il y a une partie de la population, on ne sait pas du tout si c'est majoritaire ou pas, plutôt non quand même, qui est pour la Russie, qui sont là depuis longtemps, qui regardent les mêmes télés que tous les Russes et qui effectivement voient qu'avec la guerre, ça tourne très mal pour eux, sauf qu'eux, ils ont dans l'idée que c'est l'Ukraine qui a commencé la guerre et pas la Russie. Donc eux, ils font confiance à la propagande russe. On ne sait pas du tout les nombres. Puis, est-ce que les résultats du référendum vont changer quelque chose pour ces régions-là au niveau de la droit international? Je pense que Poutine, il est assez bien renseigné quand même que personne ne va reconnaître les résultats de ces votes, ces votes populaires ou pas. Si jamais ce sont des résultats qui seront publiés et ils seront pour l'attachement de ces régions vers la Russie, c'est tout d'abord pour légitimiser un peu le processus pour son électorat en Russie pour montrer un peu que, au cas où, vous avez vu que depuis 2014, on se bat en Ukraine, maintenant vous avez des résultats, et aussi pour changer le statut de l'opération militaire en quelque sorte, parce que qui va se passer maintenant dans ces régions-là sera plus l'opération militaire spéciale, mais ce sont des opérations contre les terroristes dans ces villes-là, telles qu'il y aura encore moins de liberté, il y aura encore plus des hommes armés dans ces villes-là, et ça fait bien évidemment peur à la population locale, mais les hommes de Razgvardiya, donc c'est une force spéciale russe qui vont arriver sur place dans ces villes-là, bien évidemment, ils auront encore plus de liberté. On va se retrouver dans un genre, peut-être pas de goulag, mais on va revenir plutôt dans les années 37, quoi.
Isabelle Lasserre, techniquement, ces régions, pour les Russes, seront désormais rattachées à la Russie. Et c'est-à-dire que quand les Ukrainiens les attaqueront, les Ukrainiens s'attaqueront à la Russie. Je reprends le discours de Vladimir Poutine la semaine dernière. Il a dit, si on s'attaque à la Russie, nous nous défendrons par tous les moyens. Oui. Et ça n'est pas du bluff.
Oui, ben alors, ces référendums sont, comme vous l'avez expliqué, destinés à la Russie, à justifier en fait, la guerre, à apporter une victoire. Ça permet d'apporter une victoire aux Russes. Et je pense qu'ils sont aussi destinés à l'Occident, parce qu'effectivement, en rendant cette partie du territoire ukrainien russe, Vladimir Poutine essaye de... Enfin, c'est toujours dans son chantage. Si vous m'attaquez, attention, je vais répondre très très fort. Et donc, il essaye de dissuader depuis le début l'Occident.
Le chantage nucléaire, il va pouvoir l'exercer à partir de demain.
À la fois de fournir des armes et à la fois de continuer à soutenir l'Ukraine. Mais vous savez, la Crimée, qui est donc russe pour les Russes, puisqu'ils l'ont annexée en mars 2014... Elle a été attaquée plusieurs fois depuis le début de la guerre par les Ukrainiens. Il ne s'est absolument rien passé. Vladimir Poutine n'a pas réagi par tous les moyens nécessaires. Donc ça encore, je pense que c'est une forme de chantage qui est destinée à essayer de dissuader les Occidentaux. Mais enfin, visiblement, ça ne marche pas.
En fait, il y a une double rhétorique dans cette affaire. D'abord, il y a une rhétorique qui fait passer de l'opération spéciale à la guerre. À partir du moment où vous avez annexé des territoires et que vous considérez que c'est la Russie, ce n'est plus une opération spéciale en terre étrangère, mais c'est une guerre contre les terres russes. Donc ça va permettre de passer d'une sémantique à une autre, et donc de passer d'une opération spéciale à la mobilisation partielle ou générale, premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça rappelle aux Russes ? Vous avez tout à fait raison. En fait, ça donne aux Russes une victoire. Ça dit, regardez, en 2014, je suis intervenu, j'ai réussi à annexer la Crimée et un petit bout du Donbass. En 2022, je suis intervenu, j'ai réussi à annexer 10% du territoire ukrainien. La preuve par les référendums et par l'annexion, même totalement fictive, même totalement symbolique, de ces territoires. Donc en fait, c'est vraiment à l'attention des Russes et uniquement des Russes. Quant à la rhétorique adressée aux Occidentaux, si vous m'attaquez, eh bien je réplique. Bon, il fait ça depuis le début.
Par le bouton nucléaire, parce qu'il a parlé
de bouton nucléaire. Il fait ça depuis le début. Et d'ailleurs, les Américains ont fait savoir il y a quelques jours.
Vous n'y croyez pas, parce que même s'il y a 10%, si on joue ça au dé, quand même, ça fait peur.
Ce qui fait de la Russie une grande puissance, c'est justement qu'elle ne parle pas d'arme nucléaire et qu'elle ne l'utilise pas, comme les autres puissances nucléaires. C'est ça qui fait de la Russie une puissance nucléaire. D'ailleurs, Joe Biden, c'est si vrai qu'on a appris par la presse américaine récemment que l'administration américaine avait appelé en direct au Kremlin les plus hautes instances pour leur dire « Vous arrêtez ce type de rhétorique, vous arrêtez tout de suite ». Parce que c'est la distance qui sépare un État voyou d'un État responsable au niveau international avec lequel on peut discuter. Et il semble qu'ils étaient... ces derniers jours, plus personne n'a moufté en Russie, notamment pas ni Poutine ni les militaires, qui d'ailleurs n'ont jamais brandi l'arme nucléaire. Ça montre bien qu'une limite est atteinte.
Dans l'entourage de Vladimir Poutine, comment ça se passe d'ailleurs, Vladimir Poutine? Est-ce qu'il est tout seul est-ce qu'il a un entourage qui, par exemple, s'émeut de ce qu'il brandit ainsi la menace nucléaire, quitte à discréditer la dissuasion russe.
Plus spectaculaire, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'interviens juste pour dire, parce que je viens d'écrire un papier dessus, c'est ce qu'a dit M. Evgeny Prigogine hier. Evgeny Prigogine, c'est un oligarque proche du Kremlin, c'est le fondateur de Wagner. Il a donc depuis 8 ans nié absolument, y compris en faisant des procès, qu'il était le fondateur de Wagner. Et hier, il a dit sur le site de sa propre entreprise, mais oui, je suis bien le fondateur en 2014 de Wagner et les gens de Wagner sont des héros. Contredisant d'une manière violente, frontale, la rhétorique poutinienne et de Vladimir Poutine lui-même qui disait depuis des mois, ça n'existe pas, je ne sais pas ce que c'est et la Russie n'a rien à voir à faire. Alors ce n'est pas une opposition. C'est un avertissement. C'est une prise d'indépendance. Et que des gens comme Kadyrov...
Ou alors, il a l'autorisation de le dire, parce que ça arrange Vladimir Poutine.
Ou alors, peut-être qu'il y a une autre interprétation, mais moi je le vois comme Kadyrov, qui explique qu'il s'oppose à la façon dont la guerre est menée en Ukraine, et qui ne veut pas mettre plus de soldats tchétchènes sur le terrain. Il y a une prise, non pas de distance, mais une prise d'indépendance, comme une manière de marquer le coup.
Est-ce que le risque, d'ailleurs, ne serait pas que l'après-Poutine, ce soit des encore plus durs, Poutine s'y est mal pris, il aurait dû faire la mobilisation générale.
Ça dépend de comment ça va se terminer, cette guerre-là. Parce que, bien évidemment, si jamais on pense que l'époque de l'après-Poutine, ce sera juste que Poutine sera renversé par des élites qui l'entourent. Je parle notamment de Prigogine. Donc, je suis un peu de rhétorique que Prigogine essaie de prendre beaucoup plus d'indépendance qu'il avait. Voilà. Mais il faut bien comprendre que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans la guerre. C'est quelqu'un qui est allé lui-même dans les prisons, dans son hélicoptère pour recruter des personnes. Ce qui était évident que les Russes et les hommes politiques russes ont évité de le faire. On n'a jamais vu Poutine s'investir auprès de ses militaires sur la ligne de front. Il est allé juste faire des exercices militaires, mais ce n'est pas pareil. Donc maintenant, Prigogine, comme beaucoup d'autres généraux, comme beaucoup d'autres hommes politiques, veulent être rémunérés pour sa participation. Je ne parle pas d'argent, je parle plutôt de poids, de pouvoir politique qu'ils ont. Et ça, c'est effectivement très dangereux pour Poutine. Si jamais ils arrivent, si jamais ils ont l'idée de leur inverser, bien évidemment, ce ne sera pas l'opposition en Russie qui va venir au pouvoir pour finir cette guerre. Ce sera quelqu'un d'autre. Et ça, c'est dangereux pour l'Occident, pour l'Europe également.
Oui, Isabelle Lasserre.
Non, il y a trois formes d'opposition visibles aujourd'hui en Russie. Il y a l'opposition des mobilisés qui quittent la Russie. Il y a ce qu'il reste de l'opposition libérale qui critique la guerre. Et il y a l'opposition radicale, c'est-à-dire l'aile droite de Vladimir Poutine, qui ne lui reproche pas d'avoir commencé la guerre, mais qui lui reproche de ne pas savoir la gagner et de ne pas utiliser des moyens assez radicaux. Alors, si, effectivement, si le régime de Vladimir Poutine s'effondre demain, ou si Vladimir Poutine et renforcée, on ne sait pas qui prendra le pouvoir. C'est-à-dire, ça peut être une aile encore plus dure que Vladimir Poutine. Mais là encore, ça dépendra de comment la succession se fait. Est-ce que les républiques, les pays vont se briser, en fait? Est-ce que les régions vont se détacher du centre? Est-ce qu'il y aura une révolte généralisée? Ça, on fait de la projection, on n'en sait rien. Mais on n'aura pas un démocrate
Bontain,
pro-occidental le lendemain à Moscou.
En tous les cas, l'heure n'est pas aux négociations. On l'a compris depuis le début de cette émission, Vladimir Poutine n'a absolument pas l'intention de s'asseoir à la table des négociations ou de reculer en Ukraine. Et côté ukrainien aussi, on est galvanisé par ses succès. Au point que les Ukrainiens multiplient les attaques pour récupérer les territoires perdus, et donc ils multiplient les missiles, ce qui font des dégâts au sein de la population du Donbass, qui du coup prend parfois et souvent fait et cause pour les Russes. Vous voyez ce sujet donc tourné dans les territoires perdus du Donbass, c'est à Donetsk, c'est un sujet de Luc Lacroix.
Quand nous arrivons sur place, scène d'horreur et de panique.
On connaît quelqu'un qui a une boutique ici. C'est lui qu'on cherche.
Un tir a touché cet autobus. Les séparatistes accusent les Ukrainiens qui n'ont pas démenti jusque-là. Cette mère vient d'arriver sur les lieux, auprès du corps sans vie, criblé d'éclats de son fils de 14 ans. Au total, 6 civils sont morts. Au moins 3 ont été grièvement blessés. Face au drame, cet homme nous explique qu'il a encore plus envie d'aller voter.
C'est mon devoir d'aller voter. Je serai un des premiers. J'irai même en courant.
Dans cette ville où des tirs ont lieu constamment, beaucoup voient la Russie comme un protecteur.
Anthony Bélanger, on comprend le drame et le drame de la guerre. Les Ukrainiens, ils iront jusqu'au bout et maintenant, galvanisés par la haine qu'ils ont de l'envahisseur russe, ils iront récupérer la Crimée qu'ils ont perdue en 2014.
C'est toute la question.
Et est-ce qu'ils seront toujours équipés par les Américains? Est-ce que les Américains les suivront dans cette bataille finale?
Alors, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont de mieux en mieux formés à l'arrière du front, avec une vraie formation assurée par les Anglais et les Américains, et qu'ils sont en train en ce moment de faire la démonstration que non seulement ils peuvent faire une contre-offensive, bloquer dans le nord 15 000 hommes, parce qu'il faut occuper le terrain quand on a fait une contre-offensive, il faut garder, et en même temps faire pression dans le sud, à Kherson et ailleurs, en faisant arriver, pour le coup, de vraies troupes fraîches, nouvelles, parce qu'eux sont en état de mobilisation générale depuis 7 mois. Donc ils sont en train d'exercer une pression de plus en plus forte sur le sud et sur le nord. Et en fait, ce qui est ahurissant, c'est que nous sommes en train de discuter de la réaction russe, mais elle n'est pas militaire, cette réaction. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que les Russes n'ont réagi ni aux frappes sur la Crimée, ni à la contre-offensive sur le nord, ni en ce moment à l'encerclement, l'étouffement de la ville de Kherson. Donc on a vraiment l'impression que l'armée russe est totalement tétanisée. Il suffirait par exemple que les Ukrainiens fassent une petite percée, même pas au niveau de Kherson, simplement coupent en deux le corps expéditionnaire russe au niveau de Mélitopol, le récupèrent, et c'est pas tout à fait impossible que ça puisse arriver dans les semaines qui viennent, et bien pour que les Russes soient totalement désorganisés et que le front russe s'effondre. Je vous dis là ce que ont probablement en tête les Ukrainiens en ce moment. Leur haine des Russes, disons que c'est pas tellement une haine des Russes, c'est que leur motivation est indéniable. Elle est indéniable. On attaque leur territoire. Ils sont soutenus par ce qui est important pour eux, c'est-à-dire par des armes et des équipements occidentaux. Ils ont l'impression d'être bien formés. Ce sont des troupes aguerries. Et ensuite, je rappelle toujours, les Ukrainiens connaissent les Russes. C'est-à-dire que les Russes ne pouvaient pas tomber sur pire adversaire que ces Ukrainiens qui les fréquentent et les connaissent et les pratiquent depuis des siècles. Ils savent à qui ils ont affaire. C'est un vrai adversaire.
Isabelle Lasserre, jusqu'où iront les Ukrainiens? Quels sont les scénarios que vous envisagez là pour l'hiver, cet hiver? Est-ce que les Américains cautionneront l'attaque sur la Crimée?
Officiellement, Volodymyr Zelensky a dit depuis cet été que son but était de récupérer tous les territoires ukrainiens, y compris la Crimée. Bon, ça, c'est le discours public. Il y a peut-être d'autres scénarios qui consisteraient, une fois le Donbass récupéré, à mettre la Crimée entre parenthèses et en faire l'objet de discussions dans 10 ans, dans 5 ans, comme ça avait été évoqué par le président ukrainien lui-même au début de la guerre. Parce que autant le Donbass a l'air d'être facile à prendre.
La population...
militairement, une cible que les Ukrainiens peuvent récupérer, autant la Crimée, ça va être une autre paire de manches. Et pas seulement parce que les Russes, enfin surtout le Kremlin, est beaucoup plus attaché à la Crimée qu'au Donbass, puisque c'est un peu ils en ont fait le cœur de la Russie, mais parce que là, pour le coup, en Crimée, il y a une population qui est quand même assez favorable à Moscou. Alors, quel pourcentage l'est toujours ? C'est compliqué parce que la guerre a fait changer beaucoup de gens, et même les pro-russes au début sont devenus anti-Poutine. Les renseignements ukrainiens, les gens en Ukraine qui disent être renseignés, parlent encore d'une population de 40% totalement acquise à la Russie et au Kremlin. Une population de 40% totalement acquise au Kremlin, même si ce n'est que 40%, c'est difficile à récupérer. Vous voyez ce que je veux dire ? Le Donbass, ça tombe presque tout seul. Il y a plus...
Le Donbass était vidé de sa population pro-russe de toute façon. Et c'est-à-dire qu'il faut quand même, quand les gens que vous intervenez, que vous interviewez là, sont des gens qui ont été ramenés ou qui sont venus ou qui sont restés parce qu'ils étaient pro-russes. Tous les Ukrainiens du Donbass font partie des déplacés ou de ceux qui sont réfugiés à l'étranger.
Merci d'avoir participé à cette émission. Et on peut dire que c'est un tournant. C'est la première fois dans une émission sur l'Ukraine qu'on a à ce point parlé de l'après-Poutine. C'est peut-être révélateur quand même qu'il se passe quelque chose, même si on se trompe.
Souvenons-nous de Bachar el-Assad quand même. Hein.
C'est un signe en tous les cas qu'il se passe peut-être quelque chose. Vous restez sur France Info. On se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée à demain.